Marie-Gabrielle Ménager, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous vous avions reçu il y a quelque temps pour une émission précédente sur le beau plan de Dieu pour le couple. Et vous aviez répondu à cette question, pourquoi Dieu a-t-il créé l'être humain, homme et femme? Aujourd'hui, nous allons voir avec vous le refus du plan de Dieu et ses conséquences. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter à nouveau pour les auditeurs de Radio Maria en particulier, pour ceux qui n'auraient pas entendu l'émission précédente?
Donc je suis Marie-Gabrielle Ménager, je suis mariée à un merveilleux mari qui s'appelle Emmanuel Ménager. Nous sommes mariés depuis 34 ans et nous sommes actuellement au service de la mission dans différents domaines, de la pastorale de la famille et en particulier au dicaster de la famille, laïcité et vie du Vatican. Et nous avons développé des outils pour comprendre, intégrer le beau projet de Dieu pour l'homme, pour la femme, et voilà, qui se développe en France et ailleurs d'ailleurs, en Europe.
Alors nous vous écoutons sur le thème d'aujourd'hui.
Alors vous avez, avec vos auditeurs, déjà réfléchi sur le sujet du beau projet de Dieu pour l'homme, ce que Dieu avait dans son cœur à l'origine quand il a créé l'homme et la femme, l'intention créatrice de Dieu. Et on a vu que c'est dans la communion vécue dans l'union d'une seule chair que les époux révèlent le plus profondément Dieu qui est amour. Alors, vous comprenez bien que si on voulait détourner Dieu de l'homme, le meilleur moyen, c'est de toucher sa créature, c'est-à-dire de détourner ce qui va révéler Dieu. Puisque l'homme et la femme, dans leur communion, dans leur union, dans une seule chair, ils révèlent plus profondément Dieu qui est amour, eh bien, si je voulais supprimer Dieu du cœur des autres, eh bien, je vais m'attaquer à ce qui révèle le plus profondément Dieu qui est amour, c'est-à-dire cette union de l'homme et de la femme, cette union en une seule chair. Et donc, c'est ce qui se fait, donc on le voit dans Genèse 3, dans la chute. Alors, vous avez déjà un petit peu travaillé dessus dans la séance précédente, mais comme il y a eu les vacances de Noël et tout ça, on a peut-être l'esprit qui est parti sur autre chose, donc on a peut-être oublié. Mais le serpent qui vient, qui est l'ange déchu, c'est-à-dire celui qui refuse ce projet de Dieu, qui veut être plus fort que Dieu, eh bien, il va essayer de détourner l'homme du projet de Dieu en les faisant douter. Et si Dieu n'était pas si bon que ça? Et si Dieu était intéressé par nous, nous voulait nous dominer? Et si Dieu voulait nous écraser par sa supériorité? Vous voyez, ce doute qu'il met en nous, quand il dit à Ève, mais c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Et il veut que ce soit Dieu qui détermine le bien et le mal. En fait, on a réussi à mettre dans le cœur de l'homme et de la femme, à ce moment précis, le doute que Dieu nous aimait de façon inconditionnelle, que Dieu ne veut que notre bien. Et à douter que ce qui nous vient de Dieu est bon, on doute que ce cadeau soit bon, et donc on va nous-mêmes déterminer ce qui est bien et mal. Et là, c'est la bérésina. Et là, on en arrive à voir que tout ce qui va déterminer l'homme et la femme va partir en vrille, la sexualité va devenir un lieu de souffrance, un lieu où on va être mal à l'aise, il va y avoir des tensions entre l'homme et la femme, il va y avoir des tensions dans les relations des uns et des autres, de toute personne, mais particulièrement dans l'intimité conjugale. Et alors qu'à l'origine, il n'en était pas ainsi. À l'origine, tout était bon, tout était doux, tout était harmonieux. Et en fait, on s'est coupé du beau projet de Dieu, en mettant en doute ce don, en refusant que tout peut nous venir de Dieu, eh bien, on a abîmé ce cadeau qu'il nous a donné. Et on ne peut plus lire l'autre, on ne peut plus voir l'autre de façon désintéressée. C'est-à-dire que le regard de l'autre va commencer à me gêner, à me mettre mal à l'aise. On a des témoignages assez bouleversants, notamment d'hommes, un homme qui nous disait qu'en fait, il essayait de comprendre le sens de la concupiscence. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Il voyait bien qu'il, quand il voyait quelqu'un, il était dans le désir de l'autre, de la domination. Mais il voulait s'en libérer parce qu'il sentait que c'était comme une prison. C'est quelqu'un qui avait regardé des images, soit par vidéo, soit sur des livres, des images qui n'étaient pas, qui ne flattaient pas la beauté du corps, mais qui était plus dans une relation de domination, il en était emprisonné. Et il disait, je voulais retrouver le don total de l'autre, l'amour, celui de Dieu. C'est-à-dire, je voulais retrouver cette capacité à m'émerveiller de l'autre, et même de moi-même. Alors il marchait dans la rue, et il regardait les gens, il prenait les transports en commun pour essayer de voir les gens. Mais il voyait bien qu'il était dans une grande confusion. Et à chaque fois qu'il regardait une femme, il se disait « Mais quelle tête elle fait quand elle fait l'amour ? Est-ce qu'elle crie ?» Enfin, il avait tout le temps des flashs comme ça qui étaient détournés. En fait, il était incapable de regarder l'autre de façon pure. Et en fait, il a fait un exercice assez intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il voyait une femme, il se disait « Qu'est-ce que je peux faire pour elle ? En quoi je peux donner quelque chose pour elle ?» L'aider à descendre à son landau, son caddie, lui laisser ma place, voilà. Et donc il a commencé à avoir une attitude dans sa tête, une attitude différente en regardant les femmes, et petit à petit il a fini par se libérer de cet enchaînement qu'il avait en lui, de domination, d'écrasement. Et il était en fait libéré et donc bien plus heureux. Vous comprenez qu'après la chute, cette confiance qu'on pouvait avoir entre nous, eh bien, elle a laissé place à une défiance profonde. Et l'autre devient un danger. L'autre devient un risque. Je prends souvent cet exemple. Si vous êtes nu sous la douche et que vous n'avez pas fermé la porte à clé, quelqu'un rentre dans la salle de bain, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous mettre à hurler en disant « Non, je ne suis pas présentable ». En réalité, le cri du cœur que vous devriez lancer, c'est je ne suis pas prêt, tu n'es pas prêt, pardon, l'autre en face qui arrive, tu n'es pas prêt à voir la beauté de ce que je suis. C'est le regard de l'autre qui peut abîmer la beauté de ce que vous êtes, parce que vous êtes une belle personne. Mais c'est le regard de l'autre à travers le cœur qui peut détourner les choses. Et vous voyez, c'est ça qui est plein d'espérance, c'est qu'en fait, ce n'est pas le corps qui est abîmé, le corps est beau. C'est le regard que je vais poser, c'est mon cœur qui est à changer. Et mon regard, il peut être changé par mon cœur. Comme disait ce garçon, mon regard sur les femmes était dominateur, concupiscent, et mon cœur a changé mon regard. C'est-à-dire en me disant qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, pour l'aider, en quoi je peux me donner pour l'autre, eh bien, a changé mon regard sur l'autre. Et donc, c'est bien le cœur qu'on est appelé à changer. Parce que c'est notre cœur qui est blessé. Et dans cet enseignement que nous est donné par Jean-Paul II, qui d'ailleurs est largement repris dans Amoris Laetitia par le pape François, on voit bien que les conséquences du péché sur la sexualité humaine sont terribles et on ne comprend plus le sens de cette sexualité. Mais c'est notre cœur qui est blessé. Alors la bonne nouvelle quand même, et on en reparlera plus tard, c'est que tout ça est restauré par la venue du Créateur. Hein, on vient de fêter Noël, Dieu fait homme qui vient nous restaurer. Et il va se donner jusqu'à la croix dans son corps pour restaurer jusqu'à notre corps et notre cœur. Et ça c'est quand même plein d'espérance. Amoris Laetitia fait beaucoup état de cette séparation qui a pu s'inscrire en nous, cette incapacité à prendre regard de l'autre, à regarder l'autre comme étant une merveille. Ça va même très loin parce que on finit par même perdre le sens de la sexualité, c'est le sens de la différence sexuelle. Et Amoris Laetitia nous dit « Un autre défi apparaît sous diverses formes d'une idéologie généralement appelée le gender, qui nie la différence et la réciprocité naturelle entre l'homme et la femme. » Vous voyez, à vouloir soi-même déterminer ce qui est bien ou pas bien, à vouloir nous-mêmes, sans Dieu, déterminer ce qu'est l'autre, eh bien, on va jusqu'à en nier la différence sexuelle. Et c'est pour ça que, en tout cas, personnellement, nous sommes beaucoup investis dans cet enseignement que nous est donné par Jean-Paul II, parce que cet enseignement dans la théologie du corps nous redonne le sens de la personne humaine jusqu'à dans son identité sexuelle, dans le projet de Dieu, c'est-à-dire dans l'intention du Créateur. Et nous avons été très très largement encouragés, notamment par le cardinal Ouellet, à enseigner et à transmettre cet enseignement de Saint Jean-Paul II, qui encore une fois est très largement repris dans Amoris Laetitia, pour transmettre et redonner le sens de la beauté de la personne et permettre à notre cœur de changer. En soi, que l'on puisse trouver le corps de l'autre beau, c'est bien. Que l'on puisse considérer que le corps de l'autre devient ma chose, là mon cœur est perverti. Et c'est ce cœur qu'il faudrait pouvoir changer. Et qu'il faudrait pouvoir transformer. Et c'est le Christ, seul le Christ peut nous aider à changer notre cœur. Et c'est une belle nouvelle que le Saint-Père lance cette année, une année famille Amoris Laetitia, parce que tout au long de cette année, il va y avoir des propositions pour justement retrouver ce chemin d'harmonie que le Seigneur avait désiré pour nous. Il parle du rêve de Dieu, le pape François. On voit bien que dans Amoris Laetitia, il y a vraiment le chemin qui nous invite à prendre en nous nourrissant de ce qui nous a été donné auparavant, notamment par Jean-Paul II, qui lui-même s'appuie sur la parole de Dieu. Et on voit bien que cette année qui nous est donnée va nous aider à retrouver ce chemin d'harmonie, et essayer de ne plus être enchaîné, accueillir le Christ qui vient nous restaurer. Les conséquences, en fait, de ce refus, on en a parlé un petit peu, sont terribles. Et en fait, on est tous enchaînés. Vous, qui m'écoutez, mais moi aussi. Et mon mari aussi. Et on voit bien que dans notre intimité conjugale, on peut se blesser. Parce qu'on est intéressé. Parce qu'on va rechercher le plaisir pour soi ou des choses comme ça. On peut même commencer à regarder d'autres. Les femmes vont peut-être aller dans des rêves ou aller dans la séduction. Les hommes vont aller dans le mater la fille qui passe, etc. On voit bien qu'on est tous impactés par ça. Mais tous, on a ce cadeau qui nous est fait dans la crèche, cet enfant Jésus dans la crèche, qui vient nous montrer un chemin tout humble. Et par ce petit corps de tout petit bébé, si nous accueillons ce Christ, le Christ qui vient nous restaurer, le Rédempteur qui nous est né là, eh bien, doucement notre cœur peut transformer et donc notre regard peut changer. Et on peut même, vous savez, quand quelquefois on voit une maman qui se penche sur son petit bébé et qui dit « Mon Dieu, qu'il est beau, elle est là émerveillée », même si nous-mêmes on ne le trouve pas très beau, mais parce que son cœur est tellement plein d'amour, j'allais dire gonflé d'amour pour cet enfant qu'elle a, eh bien son cœur transforme son regard et elle le trouve beau. Eh bien c'est pareil, si notre cœur se laisse remplir de l'amour de Jésus, si notre cœur se laisse remplir de la rédemption du Sauveur qui vient là, si notre cœur laisse une place importante au Rédempteur dans notre intérieurement, eh bien c'est notre regard qui va pouvoir changer, qui va pouvoir être restauré. Et nous trouverons l'autre beau, nous trouverons l'autre avec un regard différent, sans être là comme un dominateur ou comme voulant séduire l'autre. Je pense que les conséquences sont de cette chute, de ce refus, sont terribles et on les subit tous les jours. Quand on voit que 100% des jeunes, 100% des jeunes sont passés à travers des images pornographiques, ont abîmé leur regard. De plus en plus de jeunes et de jeunes filles deviennent addicts à cette pornographie. De plus en plus de jeunes garçons et de jeunes filles deviennent addicts à la masturbation. Le nombre de couples qui se séparent parce qu'il y a une blessure jusqu'à dans cette intimité. Vous voyez, les conséquences sont terribles, terribles. Mais moi, je suis convaincue qu'en laissant le Christ venir nous restaurer, en accueillant le Christ, qui vient purifier, qui vient transformer, qui vient restaurer toute cette blessure qu'on a au fond de notre cœur, eh bien notre attitude, notre regard peuvent être transformés aussi. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu saisir ce cadeau qui nous est fait au temps de Noël. C'est bien que ce thème arrive là, juste après Noël, parce qu'on voit bien l'ampleur de la transformation qu'on est appelé à faire à l'intérieur de nous-mêmes et de retrouver un chemin de réconciliation avec notre corps. Hein. Ce n'est pas notre corps qui est coupable, mais notre cœur qui est à changer, à se laisser transformer. Voilà.
Marie-Gabrielle Ménager, vous avez cité tout à l'heure un exemple d'un homme qui a changé son regard sur les femmes en leur rendant service, en essayant de les regarder autrement que de manière déviante. Et vous avez dit que les femmes sont plus dans la séduction. Est-ce que vous avez un exemple ou un conseil à donner aux femmes à ce sujet pour changer justement de regard et d'attitude?
En réalité, pourquoi une femme va chercher à séduire l'autre? Parce que elle cherche à être dans un état dans une situation de domination, c'est-à-dire qu'elle va chercher à ce que le regard soit porté sur elle. Donc elle va ouvrir son décolleté, montrer ses jambes, enfin tout ce qui pourrait attirer le regard de l'autre. Je m'amuse souvent dans le train à regarder, quand je suis dans un TGV, à regarder si je me trouve en face d'un homme, si j'entends la porte derrière moi s'ouvrir, je peux savoir dans le regard de l'homme si c'est une femme ou si c'est un homme qui arrive. Et en regardant un peu mieux, je peux même savoir comment la femme est habillée. Parce que le regard de l'homme va se poser évidemment sur les parties qui vont être, j'allais dire, peut-être plus sensuelles. Et si la femme le montre, ben évidemment, l'homme va chercher à le regarder. Et en même temps, pourquoi fait-elle ça? Pourquoi la femme cherche à se montrer comme ça? Peut-être qu'elle elle a, peut-être d'abord, soit elle cherche à dominer, soit c'est parce qu'elle a un corps qui est blessé. Et elle est mal à l'aise avec son corps et du coup elle va être de façon exubérante, trop décolletée, trop habillée, trop sensuellement, etc. C'est quelque part, il y a un problème de relation avec son corps qui n'est pas ajusté. Mais je parle de cette femme, mais on est toutes un peu comme ça. On est toutes, nous, femmes, ou à nous cacher, ou à essayer de regarder, de faire en sorte que l'autre va me regarder, etc., au moment où je le veux. Et si on était très honnête, on sait très bien que certaines tenues sont plus ajustées que d'autres. Alors, dans l'intimité conjugale, banzai, je veux dire, nos limites. Si c'est pour séduire et rendre heureux son époux, sans le dominer, pourquoi pas? Maintenant, je ne suis pas sûre que ce soit très ajusté à l'église, au moment des mariages ou dans le train. Je ne pense pas que ce soit le meilleur endroit pour s'habiller comme ça. Et alors, comment changer? Eh bien, peut-être le matin, en s'habillant, en se disant, mais qu'est-ce que je recherche dans cette tenue? Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je recherche le regard de l'autre? Est-ce que c'est quelque chose qui est ajusté? Voilà, je pense qu'on peut se poser des questions. Quand je vois des jeunes, enfin voilà, avec des jeunes que j'ai pu accompagner, j'essaie toujours de leur dire qu'est-ce que vous cherchez. Alors on me dit oui, mais les hommes sont obsédés. Ben non, les hommes ne sont pas obsédés. Dieu a fait que l'homme masculin est séduit par le corps de la femme, et heureusement. Et c'est une bonne nouvelle, sinon ni vous ni moi ne serions là. Nous sommes le fruit de cette séduction de notre père et de notre mère, et c'est une bonne chose. Mais de là à en jouer sur les autres, c'est peut-être pas ajusté. Donc je pense que le travail à faire, c'est dans mon cœur, en vérité, qu'est-ce que je recherche comme attitude, comme regard de l'autre, qu'est-ce que je recherche, comment je recherche à attirer l'autre par ma attitude. Une fille au fond de son cœur connaît très très bien le message, la réponse. Mais vous savez, en fait, c'est vraiment juste les conséquences de ce qu'on appelle le péché. Et il faut savoir le nommer. Ce péché qui nous blesse et qui blesse notre regard, c'est tout simplement le refus du don de Dieu. Je refuse d'accepter que je suis un don de Dieu. Je refuse d'accueillir le fait que l'autre qui m'est confié là est un don de Dieu. L'autre qui m'est confié, je veux en faire ce que je veux. Je ne veux pas l'accueillir comme un don de Dieu. Eh bien, en refusant ce don de Dieu, eh bien, il va blesser la relation entre les personnes, entre les hommes et les femmes, et il va blesser la relation de l'homme et de tout ce qui provient de Dieu. Donc ça va au-delà de l'homme, c'est aussi de l'environnement. Le pape François le redit bien dans Amoris Laetitia au numéro 60, Laudato Si au numéro 66, il dit combien la relation avec Dieu et le prochain avec la terre a été blessée, a été abîmée. Et les trois relations vitales ont été rompues, dit-il, non seulement avec soi-même, mais avec l'extérieur. Eh bien, au lieu de recevoir le bien de Dieu, c'est moi qui va définir les conséquences, c'est que c'est moi qui vais finir par définir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire que je vais même aller plus loin, je sais mieux que Dieu ce qui est bien pour moi ou pour l'autre. En réalité, je doute que Dieu veut mon bonheur. En refusant le projet de Dieu, c'est parce que je doute que Dieu veut uniquement mon bonheur et je veux moi-même décider ce qui est bien ou pas bien. Vous savez, on a du mal à accepter les règles qui nous sont confiées pour un plus grand bonheur, pour un plus grand bien. On sait que si on mange de trop, on va pas être bien, mais on va quand même manger de trop. On sait que si on se met trop au soleil, c'est mauvais pour la peau, mais on va quand même se mettre au soleil pour bronzer. Eh bien, c'est pareil dans notre relation à l'autre. C'est pareil dans notre relation à nous-mêmes. Nous avons en Dieu la réponse que nous sommes un don reçu de Dieu. Je suis un don de Dieu. Je suis une merveille. Moi, Marie-Gabrielle, je suis une merveille dans le regard de Dieu. Et ceux qui me sont confiés, mon mari, mes enfants, sont des dons que Dieu me fait, me confie. Mon mari est un don que Dieu me fait. Je suis un don fait à Emmanuel de la part de Dieu. Vous comprenez bien l'importance de se regarder ainsi. Ça transforme. On ne fait plus. Il y a un mari qui me disait, moi je ne fais plus n'importe quoi avec ma femme depuis que j'ai réalisé qu'elle était un don que Dieu me faisait. Et une femme qui me disait, mais j'ai réalisé à quel point je devais avoir une attention et cesser d'être une mégère avec mon mari parce qu'en fait, il est un don que Dieu me fait. Et donc, chercher à le combler, à lui plaire pour son bonheur. Et quand deux époux cherchent l'un et l'autre à se plaire, parce qu'ils sont l'un et l'autre des dons reçus de Dieu, mais c'est une garantie du bonheur dans l'intimité et dans la relation quotidienne que ce couple se donne. C'est une garantie du bonheur. Et donc, je ne sais pas si je réponds à votre question par rapport à la femme, mais l'un et l'autre ont une façon de dominer qui est différente, par la séduction ou par le regard, mais l'un et l'autre ont le même chemin d'accueil de l'autre, c'est-à-dire l'homme et la femme, dans la dimension conjugale, sont appelés à s'accueillir comme un don de Dieu. Tu es le don que Dieu me fait. Alors je vais prendre soin de toi. Vous savez, si Johnny Hallyday, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, m'avait fait un cadeau, j'imagine que ce cadeau, je l'aurais mis dans le salon pour que tout le monde le voit. C'est le cadeau de Johnny Hallyday qu'il m'a fait à moi personnellement, Marie-Gabrielle. Et en réalité, Emmanuel, mon mari, c'est le cadeau que Dieu me fait. C'est encore plus grand. Et donc, je suis appelée à en prendre soin dans toute sa personne, dans tout son cœur, dans tout son bien-être. Et voilà ma mission d'épouse. Et la même pour Emmanuel, pour moi. Si nous avons l'un et l'autre cette préoccupation constante, si on appelle le Christ à venir restaurer nos blessures au cœur de notre relation conjugale, je peux dire que c'est une garantie de bonheur dans la vie du couple. Amen.
Alors, nous avons reçu une question par SMS. Je pense que vous avez déjà répondu en partie. Donc, voici cette question. Qu'est-ce qu'une relation normale avec une femme et une sexualité normale aujourd'hui?
Alors, une sexualité avec une femme, c'est-à-dire entre un homme et une femme, bien entendu, puisqu'il ne peut y avoir de relation sexuelle qu'entre un homme et une femme. Quand je parle de relation sexuelle, c'est-à-dire de communion des corps, de l'union des corps dans la sexualité, c'est-à-dire quand le pénis va pouvoir entrer dans le vagin, c'est ça une union sexuelle. Ce sont deux sexes qui se réunissent, qui sont unis. Donc, est-ce que vous pouvez me redire la question?
Alors, qu'est-ce qu'une relation normale avec une femme et une sexualité normale aujourd'hui?
Une sexualité normale, c'est de rechercher le don de façon désintéressée. Alors, on n'y arrivera pas de façon parfaite parce qu'on est limité, on a péché en nous, on est blessé. Mais c'est de cheminer vers, hein, c'est la dernière phrase d'Amoris Laetitia, cheminons, cheminons. Ce qui nous est promis est toujours plus. Eh bien, une sexualité normale entre Emmanuel et moi, ce serait de cheminer jour après jour, donc 34 ans de mariage, vers toujours plus de dons désintéressés l'un vers l'autre. Ce n'est pas que dans l'union intime, c'est dans toute notre relation quotidienne qui va se manifester au sommet par l'union des corps. Et une union normale, c'est essayer, tenter, cheminer vers un don désintéressé, c'est-à-dire la joie de l'autre, en vue de la joie de l'autre. Non pas rechercher mon plaisir, c'est pas j'ai envie de la sauter tout de suite, j'ai envie de sauter ma femme tout de suite. Pour l'homme, ça demande aussi un cheminement de retenue, etc. Et puis pour la femme, d'accueil. Il y en a un, je l'avais déjà dit, il y en a un qui va se donner en accueillant et l'autre qui va accueillir en se donnant. Ça pourrait. Alors, dans les deux dernières émissions que nous allons faire ensemble, nous allons aller plus loin dans cette union sexuelle. Ces deux dernières séances, alors j'ai plus les dates en tête, mais c'est les deux dernières où on parlera de cette union conjugale, de l'amour, comment l'amour et la vie sont liés en nous, dans notre corps, et comment avoir une vie sexuelle épanouie dans la durée. Donc ça, on va en parler dans les deux dernières émissions. Mais déjà aujourd'hui, cheminer vers regarder mon épouse, donc j'imagine que c'est un homme qui a posé cette question, regarder mon épouse comme un don que Dieu m'a fait, et donc préparer, cheminer dans toutes les relations que nous avons au quotidien vers un don désintéressé. Comment je peux me donner à elle? Aller ramasser les poubelles, l'écouter, lui donner de la tendresse, lui dire qu'elle est belle. Vous savez, moi j'ai un mari qui tous les matins, tous les matins, tous les matins, depuis 34 ans, me dit, qu'est-ce que tu es belle? Mais tu es vraiment la plus belle. Eh bien, c'est pour ça que j'arrive aujourd'hui très simplement à dire qu'en effet, je suis belle. Je suis belle, mais très belle même, mais dans le regard d'Emmanuel. C'est ça qui m'intéresse. Et cette conviction et cet accueil de la beauté de ce que je suis dans le regard d'Emmanuel me fait m'accueillir comme une merveille dans le regard de Dieu. Et inversement, m'accueillir comme une merveille dans le regard de Dieu me fait accepter que je suis belle dans le regard d'Emmanuel. On dit que l'amour rend aveugle, moi je ne crois pas. Je pense que l'amour rend la vue, c'est-à-dire rend cette capacité à regarder l'autre comme un don de Dieu. Voilà.
Alors, vous avez parlé également de lorsque il a été question des femmes donc dans la séduction. Vous avez parlé également des personnes qui vont cacher leur corps. On avait déjà abordé cette question avec Patrick Karadec qui nous avait parlé du corps. Comment faire quand on déteste quand on déteste son corps. Je pense à des personnes, par exemple, qui n'oseront même pas se mettre entièrement nues devant leur conjoint, par honte de leur corps et parce que ces personnes détestent leur corps. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces personnes?
Comme je comprends leur souffrance, comme ces personnes doivent souffrir parce que ne pas aimer son corps, c'est ne pas s'aimer soi-même. Et si on arrive à ne pas aimer soi-même et son corps, c'est que on a dans son histoire vécu des blessures, des souffrances, Moi, toute mon adolescence, on s'est fichu de moi parce que j'étais rondelette. Donc, on m'a tout le temps charrié là-dessus, mais tous les jours. Et ce qui fait que quand Emmanuel commençait à dire que j'étais belle, je trouvais qu'il avait de mauvais goûts parce que j'étais pas belle. J'étais grosse, on me l'a dit toute mon adolescence. Et il a fallu toute sa délicatesse et toute sa patience pour que j'accueille cette beauté. Alors, je ne dis pas que je suis un modèle de mode, je ne serai jamais la couverture d'un magazine, ça c'est une évidence. Mais par contre, dans son regard, je sais que je suis belle. Alors, pour cette personne qui est blessée, qui est profondément blessée dans son corps, et donc dans son cœur, eh bien, il y a tout un cheminement à faire qui peut être très long, mais qui est fructueux. Tout d'abord, reprenons la pédagogie de Dieu. Il invite l'homme, l'humanité, à regarder la nature, à nommer les plantes, nommer les animaux, etc. Moi, j'inviterais cette personne à cheminer vers un émerveillement de l'environnement, de la nature, de retrouver, de se réconcilier, de prendre le temps de voir ce qui est beau dehors. Là, bientôt, il va y avoir le printemps qui va arriver. On va voir les petits bourgeons sortir. Regardez la puissance de vie qu'il y a dans ces arbres en ce moment. On ne voit rien que du bois noir. Et en fait, derrière, à l'intérieur, il y a une puissance de vie. Bientôt, des petits bourgeons vont sortir. Ça travaille dur dans l'arbre en ce moment. Cheminer vers cet émerveillement, de voir ce vert tendre qui va sortir, ces petites fleurs roses, si belles, si fragiles, qui vont sortir au printemps. Prendre le temps de s'émerveiller pour mettre son cœur en état de joie. Faire rentrer cette joie à l'intérieur de soi. Et puis, doucement, cheminer vers l'émerveillement vers l'autre. L'autre est une belle personne. L'autre est un cadeau qui m'est fait. Et puis enfin, l'émerveillement de ce que je suis. Accueillir ma personne comme quelque chose, comme un don. Alors, ces étapes, en fait, elles nous sont données dans la Bible, dans la Genèse. Dieu demande à l'homme de nommer et ensuite, l'homme dit « mais je ne vois personne comme moi ». Et là, il va s'apercevoir qu'il est fait pour le don. Il est fait pour la relation en voyant Ève. Et d'où le cri d'exultation, le « waouh » de l'homme qui dit « mon Dieu, que la femme est belle et en même temps, je comprends pourquoi je suis un homme ». Eh bien, une personne qui est profondément blessée dans son cœur et dans son corps, ou a une mauvaise estime, je pense qu'un des chemins, c'est de retrouver l'émerveillement extérieur de la nature et puis voilà, reprogresser et si besoin peut-être se faire aider par une personne professionnelle qui peut l'accompagner mais nous avons fait nous des expériences avec un parcours pédagogique qu'on développe notamment auprès des jeunes qui s'appelle Grammaire de la vie mais on l'a fait aussi avec des adultes et le parcours Grammaire de la vie on peut trouver ça sur le site Grammaire de la vie, c'est un outil pédagogique qui vraiment nous met en chemin d'émerveillement. J'en discutais avec un prêtre là récemment qui fait des préparations au mariage et il me dit je vois beaucoup beaucoup de jeunes, il est dans une abbaye, il dit je vois beaucoup de jeunes mais je m'aperçois aujourd'hui que la clé pour tous ces jeunes c'est qu'ils doivent retrouver le chemin d'émerveillement. C'est une urgence parce qu'il y a trop de blessures en eux. Et nous l'expérience qu'on a par ce parcours Grammaire de la vie c'est qu'on voit vraiment des jeunes et des adultes être transformés, des femmes me dire j'ai retrouvé la fierté d'être femme, la beauté de ce que je suis, la dignité de ma féminité, j'ai découvert une joie que je ne connaissais pas, qui était au fond de moi, c'est la première fois que je vis ça. Juste par ces étapes progressives qui nous mettent en route vers l'émerveillement. Mais c'est très douloureux quand on a été blessé, quand on a été abîmé dans son enfance, dans son adolescence, et qu'on est resté avec ça. Il faut en sortir. Et c'est possible à tout âge. Il ne faut pas dire j'ai 50 ans, c'est fini. Ce n'est pas vrai. Ou j'ai 40 ans, c'est trop tard. Non, ce n'est pas vrai. À tout âge, on peut retrouver ce chemin d'émerveillement. Donc il ne faut pas se décourager.
Alors peut-être une dernière question qui vient d'arriver par SMS. Comment encourager les jeunes à se marier ?
Alors, ceux qui sont en couple, c'est pas pareil que ceux qui ne sont pas en couple. Aujourd'hui, je vous fais un peu très court ce qui est dans notre tête, puisque je doute du don de Dieu, puisque je sais mieux que Dieu ce qui est bien pour moi, eh bien, je vais décider de vivre ma vie comme je veux. Et donc, je vais en oublier le sens profond qui est le don de ma personne de façon désintéressée. Et qu'on ne peut se réaliser pleinement que par le don. Et on est dans une société qui nous mâche à longueur de journée que nous sommes faits pour vivre bien. Prends soin de toi. Pense à toi, à ton épanouissement, à ton bien-être. Alors ça, le bien-être, mon bien-être, ça c'est quelque chose qui nous empile la tête en permanence. Mais à force de penser à soi, à son bien-être, à son épanouissement, ben on oublie qu'on est fait pour l'autre. Et on est dans une société qui fabrique des personnes seules. C'est terrible ce que je vous dis, mais c'est la réalité. On a longuement échangé avec l'archevêque de Washington, qui nous disait qu'en fait c'était sa priorité pastorale, parce que 40% de ses paroissiens étaient des célibataires, et qu'il en était complètement... Il dit le vrai drame, c'est la perte du sens du don. Et retrouver ce que je suis, c'est-à-dire pleinement homme, pleinement femme, fait pour le don. Et ce chemin-là, il est à faire. Alors nous personnellement avec mon mari, on développe beaucoup d'outils là-dessus parce que on voit bien que c'est un nœud qui a. Il y a même une jeune fille qui a fait une thèse là-dessus sur la fabrique à célibat. Les grandes villes sont des fabriques à célibat. New York est une ville, je crois, à 50 ou 60% de célibataires. Enfin, c'est juste dramatique. C'est pas le problème, notre problème seulement en France. C'est dans les grandes villes de pays soi-disant développés et civilisés, on fabrique des célibataires parce qu'on a fait des bêtes à bien-être, des bêtes à succès, des bêtes à pouvoir et à argent et à réussite et à soi, à tourner vers soi. Voilà. Et alors cette vague Covid qui nous arrive dessus, qui en plus nous isole des uns des autres, où on passe son temps à dire qu'il faut qu'on pense à nous, ça facilite pas les choses. Hein. Et c'est terrible, en effet, c'est terrible. On est comment faire pour que les jeunes se décident? C'est essayer d'ouvrir leur cœur, de leur proposer des outils. Alors on a le parcours Waouh là qui s'est mis en clé USB maintenant, donc c'est assez facile d'acheter une clé USB, de prendre le bouquin et de se mettre à plusieurs et de retrouver ce beau projet de Dieu pour chacun de nous, parce que du coup derrière on peut commencer à avancer, à cheminer, et même on peut le faire par Zoom. Enfin bon, aujourd'hui il y a des moyens pour se former, ils sont accessibles jusqu'à derrière mon écran, jusqu'à chez moi. Tout ça, c'est possible. Il faut juste en prendre conscience, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Marie-Gabrielle Ménager, pour l'émission d'aujourd'hui. Et puis, on vous retrouvera.
Si je peux me permettre juste une chose, nous sommes quand même en pleine période d'espérance, puisqu'un sauveur nous est né. C'est-à-dire, rien n'est foutu, rien n'est perdu, puisqu'un sauveur nous est né, et la rédemption est notre espérance.
Eh bien, merci beaucoup. Et puis, on vous retrouvera sur un autre thème concernant le plan de Dieu pour les couples. Merci beaucoup. À très bientôt.
Bonne journée.
Au revoir.